Le journal, présenté par Mathieu Laurent.
Bonsoir à tous. Nous serons dans un instant en ligne de Washington où des centaines de milliers de personnes défilent. La jeunesse américaine, traumatisée par les tueries de masse, ne veut rien lâcher dans son combat contre le port d'armes. Nous nous rendrons également en Égypte où se prépare une présidentielle fantoche. Enfin, l'enquête sur la triple attaque terroriste de Carcassonne et Trèbes. Au domicile de son auteur ont été retrouvés des documents qui le lient à l'organisation État islamique. La génération mass shooting noircit l'agenda politique américain ce samedi. Elle marche pour sa vie, cette génération qui a grandi au rythme des drames sous les menaces permanentes de tueries de masse dans les établissements scolaires. Par le passé, il y eut bien des mobilisations. Celle d'aujourd'hui, 800 marches programmées dans le pays, refusent la fatalité et son corollaire, la résignation. Nous retrouvons comme convenu notre envoyé spécial permanent aux États-Unis, Grégory Phillips à Washington. Bonsoir Grégory.
Bonsoir Mathieu.
Grégory, manifestation monstre qui pourrait faire date à Washington.
Oui, impossible de vous dire combien ils sont sur Pennsylvania Avenue, 500 000 peut-être, en tout cas l'avenue qui mène au Capitole américain est noire de monde, la foule est si compacte que plus personne ne peut bouger et tout le monde ici a une certitude, celle de participer à une manifestation qui, c'est sûr, marquera l'histoire des États-Unis. Sur le podium installé juste devant le Congrès américain, un lycéen de Parkland, Cameron Kasky, est le premier à prendre la parole tout à l'heure, c'est lui et quelques-uns de ses camarades qui, au lendemain du 14 février, après la mort de 17 personnes au lycée Marjorie Stoneman Douglas a pensé cette mobilisation, le mouvement Never Again, plus jamais ça. Nous sommes la génération née au moment du massacre de Columbine, dit Kasky. Nous sommes le changement. À côté de moi, une mère de famille est venue de la banlieue de Washington avec sa fille de 14 ans. Je suis tellement fier de ce que ces adolescents sont en train d'accomplir, dit cette femme. L'immense foule rassemblée ici au cœur de la capitale fédérale pense que le moment est venu pour enfin mieux contrôler les armes dans ce pays. Et elle crie « Vote them out », voter contre eux aux prochaines élections, évidemment, de mi-novembre ou en 2020.
Merci à vous. En direct de Washington, Grégory Phillips. En Italie, accord conclu entre la coalition droite-extrême-droite et le mouvement 5 étoiles. À ce dernier, la Chambre des députés, à Forza Italia, le Sénat. Les tractations traditionnellement interminables peuvent commencer et ce premier accord peut conduire à un gouvernement dominé, à tout le moins ses postes régaliens, par la Ligue de Matteo Salvini. Ils ont hissé le drapeau blanc, puis ont abandonné une partie de leur armement dans un lieu précis. Quelques 7000 combattants du groupe Feilak al-Rahman s'apprêtent à quitter la Ruta orientale et à prendre la route d'Idleb via des couloirs négociés par la Russie, alliée de Damas dans cette Ruta orientale. Il ne resterait qu'une seule enclave dite rebelle autour de la ville de Douma, où des effectifs de Jaïch al-Islam seraient en train de négocier leur évacuation. Un simulacre de démocratie, une parodie d'élection lundi, la présidentielle égyptienne. Pression sur les électeurs pour qu'ils se rendent dans les bureaux de vote, mais aussi arrestation et expulsion de journalistes. Ce matin, un attentat a visé le directeur de la sécurité de la ville d'Alexandrie, deux policiers tués à la suite de l'explosion d'une voiture piégée. François Humfer-Kataji nous appelle du Caire.
Vivement que ça se termine, c'est le sentiment général en Égypte autour de cette élection que l'on peut qualifier de pantalonnade tant les dés sont pipés. Avant le dépôt officiel des candidatures, les candidats déclarés ont tous été écartés. Deux sont en prison, dont l'adversaire qui aurait été le plus redoutable pour le président Sisi, l'ancien chef d'état-major Sami Anan. Trois autres ont jeté l'éponge devant les menaces et l'impossibilité de mener campagne. Les services de sécurité empêchent les équipes d'imprimer des tracts, de réserver des salles de réunion ou d'organiser des meetings. Le seul candidat à avoir été autorisé à se présenter est un inconnu du grand public. Il a toujours soutenu le président Sisi et refuse encore aujourd'hui d'émettre la moindre critique contre le président en place. La presse est aux ordres. 18 journalistes égyptiens ont récemment été arrêtés. Plus d'une trentaine sont derrière les barreaux. Et la correspondante du Times, Beltrou, qui travaillait depuis 7 ans en Égypte, a été expulsée après avoir été détenue pendant 48 heures. Des tensions politiques auxquelles s'ajoute un fort risque d'attentat. Ce matin, une voiture piégée a explosé non loin du centre-ville d'Alexandrie. La bombe visait le directeur de la sécurité de la ville. Il a réchappé à l'attaque et 4 autres personnes ont été blessées. L'attaque n'a pas été revendiquée, mais plusieurs groupes prônant la violence contre la police et l'armée ont été créés récemment. Pour certains, il s'agit de branches radicalisées des frères musulmans, particulièrement touché par la répression du régime. Enfin, il y a la menace Daesh qui a explicitement appelé à commettre des attentats pendant les 3 jours de l'élection présidentielle qui doit se tenir entre lundi et mercredi.
Et le doyen démissionné, le doyen de la faculté de droit de Montpellier, le président de l'université a en effet accepté hier soir la démission de Philippe Pétel. Il a eu bien des difficultés, Philippe Pétel a argumenté. Après l'évacuation très violente d'un amphithéâtre occupé dans la nuit de jeudi à vendredi par des étudiants opposés à la réforme de l'université, un commando d'hommes cagoulés et armés a fait irruption dans l'établissement. Bonsoir Eva Gennac.
Bonsoir.
Eva, qu'est-ce qui aurait justifié sa démission ?
Eh bien, selon Philippe Auger, le directeur de l'université de Montpellier, qui a accepté hier soir cette démission, elle a été formulée pour tenter d'apaiser la situation. Dans tous les cas, ce n'est pas un aveu de culpabilité.
Non, il n'y a pas de reconnaissance ni vocation d'une faute quelconque. Il est plutôt dans une logique de dire maintenant, il faut que cela bien s'estompe, il faut que cela s'apaise. Et donc, la communication qu'il a utilisée donc précédemment, eh bien, a été jugée même par lui, donc pas adaptée. Donc, il s'est retiré pour ce motif-là.
En effet, dans un sujet diffusé sur France 3, peu de temps après l'évacuation, l'ancien doyen a maladroitement tenté de minimiser les actes de ceux qu'il qualifie de simples étudiants en droit. Il s'est même dit fier. Des propos qui ont scandalisé au regard des blessures et de l'hospitalisation de plusieurs élèves occupants. Hier, près d'un millier de manifestants se sont réunis devant la fac de droit, fermée après les événements. Les cours étaient censés reprendre lundi, mais le président de l'université annonce aujourd'hui qu'il n'y a encore aucune certitude.
Pour moi, il serait aujourd'hui dramatique de réouvrir une faculté et que soit des gens aient la crainte de venir y accéder, que d'autres finalement voient à travers tel ou tel fait la volonté de prendre une revanche ou autre. Mais il est évident que la faculté ne pourra réouvrir que lorsque toutes les conditions de travail de manière en termes de sécurité seront respectées et remplies.
Il annoncera sa décision demain dans l'après-midi et espère une enquête rapide du côté de la police. Lui-même a porté plainte contre X pour violence volontaire, intrusion et atteinte aux personnes et aux biens.
Merci à vous Eva Gennac. De prime abord, on serait tenté de qualifier la jeunesse d'indomptable, mais regardez de plus près au sein du PS comme au sein d'autres écuries politiques, le mimétisme finit par l'emporter. Ce ne fut donc qu'une surprise de pacotille. Hier, Roxane Lundy, présidente du mouvement des jeunes socialistes annonçait la rupture, puis le ralliement au mouvement de Benoît Hamon, Génération. C'est un train qui entre en gare avec un poil de retard, selon Jean Petaut, politologue à Sciences Po Bordeaux.
J'aurais tendance à dire que si on peut avoir une surprise, c'est qu'elle ne soit pas intervenue plus tôt, dans la mesure où le MJS a toujours été, au moins sur les 15 dernières années, sous l'influence de Benoît Hamon. Et les réseaux hamonistes sont devenus, j'allais dire, adultes, se sont efforcés de garder plus qu'un œil, contrôle de cette organisation, qui, de tradition d'ailleurs, y compris à l'époque de François Mitterrand, était située plus à gauche que la majorité du Parti Socialiste. D'ailleurs, le MJS, c'est toujours assez étonnant, la tradition a toujours fonctionné un peu dans une vigueur de la critique. Ces jeunes gens se sont toujours présentés, ont toujours fonctionné un peu comme des vieux politiciens qui n'hésitaient ni dans l'outrance, ni dans la vacherie, comme on dit. Le MJS, c'est une pépinière à futurs politiciens professionnels.
Des propos recueillis par Sarah Cosolino. Trois engins explosifs découverts auprès du corps de l'auteur de la triple attaque terroriste d'hier à Carcassonne et Trèbes. À son domicile, les enquêteurs ont trouvé des documents qui attesteraient de ses liens avec l'organisation État islamique. Sophie Parmentier.
Ce que les enquêteurs ont découvert lors de la perquisition qu'ils ont faite hier soir au domicile de Radouane Lagdim, ce sont des notes manuscrites trouvées dans une sorte de calepin, des notes assez confuses mais qui font en tout cas allusion de façon très claire à l'État islamique. Islamique, nous confirme ce soir une source judiciaire, et ces notes font aussi penser à un testament, ce qui montre que Radouane Lagdim s'était préparé à mourir en martyr, préparé à mourir comme un soldat de Daesh, ainsi qu'il s'était présenté hier matin lorsqu'il a fait irruption dans le super rue de Trèbes au début de sa prise d'otage. Supermarché dans lequel les enquêteurs ont retrouvé tout près du corps du terroriste tué dans l'assaut final du GIGN des engins explosifs de confection artisanale, trois engins explosifs, les autres armes dont s'était muni le terroriste était le pistolet de calibre 7,65 avec lequel il a semé la terreur de Carcassonne à Trèbes et un couteau de chasse. Alors, l'une des principales questions pour les enquêteurs est de savoir maintenant si Radouane Lagdim, franco-marocain de 25 ans, suivi de manière effective par les services de renseignement en 2016 et 2017, a bénéficié ou non de complicité. Les policiers antiterroristes ont pour l'instant placé deux personnes en garde à vue. D'abord, la petite amie du terroriste terroriste. Elle est âgée de 18 ans, elle est entendue depuis hier soir et depuis minuit, les policiers interrogent aussi un mineur, un jeune homme de 17 ans qui était un ami de Radouane Lagdim. Ces deux gardes à vue peuvent durer jusqu'à 4 jours, comme c'est souvent le cas dans des affaires terroristes.
Et un conseil de défense se tient en ce moment même à l'Élysée. Les très grandes lignes météo de demain dimanche, ciel changeant et de sérieux, passage nuageux sur le nord et l'est, enfin la disparition de l'écrivain écossais Philip Kerr, l'auteur de la fameuse série Bernie Gunther, était connu et reconnu pour ses romans policiers. Il s'est également aventuré avec bonheur dans la science-fiction et les romans pour enfants. Cette édition a été préparée avec Caroline Beneteau, à la technique Julien Calvas.